Qu'arriverait-il si vous vous mettiez devant un champ en disant:
Donne-moi des plantes, donne-moi des fruits.
Le champ répondrait probablement:
Excusez-moi, mais vous vous méprenez. Vous devez être nouveau ici. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et il vous expliquerait qu'il faut d'abord planter une graine, puis s'en occuper, arroser, bêcher, mettre de l'engrais, la protéger et la nourrir. Ensuite, si vous faites bien tout cela, vous aurez une plante, un fruit. Vous pouvez demander indéfiniment au champ ce que vous désirez, cela ne vous mènera à rien. Pour que la terre porte ses fruits, il faut donner à la terre, nourrir la terre, et la vie est exactement pareille. Vous pouvez gagner des fortunes, régner sur des empires, diriger des multinationales ou contrôler de vastes territoires. Si vous ne le faites que pour vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui a vraiment réussi. Vous n'avez pas de vrai pouvoir, vous n'avez pas de vraie richesse. Si vous atteignez seul le sommet de la réussite, vous finirez probablement par sauter dans le vide.
Voulez-vous savoir quelle est la plus grande illusion que l'on puisse se faire à propos de la réussite?
C'est de croire qu'elle est une montagne à escalader, une chose à posséder, un résultat statique à atteindre.
Pour réussir, pour satisfaire à tous vos objectifs, vous devez penser à la réussite comme à un processus, un mode de vie.
Une disposition d'esprit, une stratégie d'ensemble. Voilà de quoi parlait ce chapitre. Vous devez savoir ce que vous avez entre vos mains et les dangers que vous rencontrerez. Si vous voulez connaître la vraie richesse et le vrai bonheur, vous devez être capable d'utiliser votre pouvoir de façon responsable et aimante. Lorsque vous saurez vous servir de ces cinq clés, les capacités et les talents que je vous ai appris à développer dans ce livre porteront leurs fruits. Vous ferez des choses prodigieuses.
Regardons maintenant comment le changement fonctionne à un niveau plus général, au niveau des groupes, des communautés et des nations.
Dans quelques instants, chapitre 20.
Création des tendances, le pouvoir de la persuasion.
Thank you. Et oui, c'était l'éternel concerto pour violon et orchestre en la mineur de Jean-Sébastien Bach, plus exactement l'allegro de ce concerto. Nous ne pourrons plus longtemps réussir à manœuvrer le vaisseau spatial Terre si nous ne le voyons pas comme un bâtiment entier, si nous ne considérons pas notre destin comme un destin commun. Ce sera nous tous ou personne. Buckminster Fuller.
Nous avons jusqu'ici traité du changement individuel, de la façon dont les gens peuvent grandir et développer leur puissance. Mais il y a un aspect du monde moderne que nous ne pouvons négliger. Celui des phénomènes de masse et de leur évolution. Comparer le monde à un village est devenu depuis longtemps un cliché, mais qui n'en est pas moins vrai. Il n'y avait jamais eu jusqu'alors dans notre histoire tant de puissants mécanismes jouant sur les masses de façon durable. Il peut s'agir de ces mécanismes qui font que de plus en plus de gens boivent du Coca-Cola, portent des Levi's ou écoutent du rock'n'roll. Il peut aussi s'agir de ceux qui transforment certaines attitudes sur toute la planète. Tout dépend de qui persuade, qui et pourquoi. Nous allons étudier dans ce chapitre les changements qui existent au niveau des masses, chercher à comprendre comment ils arrivent et ce qu'ils signifient.
Puis nous verrons comment vous pouvez devenir un guide, comment vous pouvez utiliser vos capacités.
Nous croyons que le monde d'aujourd'hui est inondé de stimuli. Mais ce n'est pas ce qui le différencie vraiment des temps plus anciens. Un Indien qui marchait dans les bois était constamment confronté à des images, des sons et des odeurs pouvant signifier pour lui qu'il allait vivre ou mourir, manger ou rester affamé. Son monde ne manquait pas de stimuli.
Ce qu'il y a de très différent aujourd'hui, c'est le caractère intentionnel et la portée des stimuli. Dans la forêt, l'Indien devait interpréter le sens de stimuli aléatoires. Notre monde, au contraire, est plein de stimuli qui sont consciemment dirigés vers nous pour nous faire agir. On nous persuade d'acheter une voiture ou de voter pour tel ou tel candidat. On fait appel à nous pour sauver des enfants qui meurent de faim. Ou on nous dit, ou on nous incite à manger plus de gâteaux et de biscuits. On veut nous convaincre que tout va bien parce que nous possédons quelque chose, ou que rien n'ira bien tant que nous ne posséderons pas autre chose. Mais c'est le caractère constant de la persuasion qui caractérise le monde moderne. Nous sommes sans cesse entourés de gens qui possèdent les moyens, la technologie et le savoir qui leur permettent de nous persuader de faire une chose ou une autre. Et cette persuasion a une portée globale. Une image qui nous est imposée peut être imposée au même instant à tout le reste du monde, ou presque.
Prenons l'exemple de la cigarette. Les gens pouvaient autrefois plaider l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous savons que le tabac est nocif. Que, du cancer aux troubles cardiaques, il est lié à tous les problèmes de santé. Il y a même dans le public un sentiment profond qu'expriment des campagnes locales ou des enquêtes. De ce qu'en fumant, on fait quelque chose de mal. Les gens ont toutes les raisons du monde de ne pas fumer. Pourtant, l'industrie du tabac continue à prospérer. Des millions d'êtres humains continuent à fumer. Et chaque jour, d'autres commencent à le faire.
Pourquoi ?
Est-ce le plaisir que procure une cigarette qui pousse les gens à commencer à fumer ?
Non, car pour que ce plaisir existe, il faut apprendre qu'il peut être créé par la cigarette. Il ne constitue pas une réaction naturelle.
Que se passe-t-il la première fois que les gens allument une cigarette ?
Ils détestent ça. Ils toussent, ils ont des haut-le-cœur et la nausée. Leur corps leur dit
« Ce truc est horrible, je n'en veux pas ».
Or, nous suivons dans la plupart des cas les conseils de notre corps.
Pourquoi n'en va-t-il pas de même avec la cigarette ?
Pourquoi les gens continuent-ils à fumer jusqu'à ce que leur corps se rende et devienne ensuite dépendant ?
Parce qu'on a restructuré leur schéma interprétatif. je vais y arriver, interprétatif de la cigarette et ancrer en eux cette nouvelle représentation et l'état auquel elle correspond.
C'était une belle restructuration du cerveau. Quelqu'un qui sait comment persuader les autres a dépensé des millions et des millions de dollars pour les convaincre de ce que fumer est désirable. À travers la publicité, des images et des sons adroitement conçus ont été utilisés pour nous placer dans des états positifs. Puis, ces états désirables ont été associés à un produit appelé cigarette. Et ce, de façon si intensément répétitive que l'idée de fumer est désormais liée à des états désirables. Une feuille de papier enroulée autour de quelques grammes de tabac n'a en elle-même aucune valeur, aucun contenu social. Mais on nous a persuadé que fumer donnait du sex-appeal ou de l'aisance, que les vrais adultes ou les vrais hommes fumaient.
Vous voulez ressembler à l'homme de Marlboro ?
Fumez une cigarette.
Vous voulez prouver que vous avez fait du chemin ?
Fumez une cigarette.
Vous avez fait du chemin, et si vous fumez, ce chemin débouche sur un grand risque de cancer du poumon.
Quelle folie ! Quel rapport peut-il y avoir entre un état désirable et le fait d'imprégner ses poumons de produits cancérigènes ?
Le rapport qu'ont établi les publicitaires en faisant à un niveau général exactement ce dont nous avons parlé dans ce livre.
Ils produisent des images qui vous placent dans un état intense, réceptif, et au moment le plus fort de cette expérience, ils ancrent en vous leur message. Puis, ils recommencent, à la télévision,
à la radio,
dans les magazines, afin de renforcer constamment le point d'ancrage.
Pourquoi faut-il payer Bill Cosby ou Michael Jackson pour vendre du Coca-Cola ou du Pepsi ?
Pourquoi est-ce qu'un homme politique s'entoure d'un drapeau ?
Pourquoi les Français aiment-ils les steaks frites, le football et la tarte aux pommes ?
Ces gens et ces symboles constituent déjà de puissants points d'ancrage dans une culture. Et les publicitaires ne font que transférer le sentiment que nous éprouvons pour ces gens ou ces symboles sur leurs produits. Ils les utilisent pour nous rendre réceptifs à leurs produits.
Pourquoi, lors des dernières élections, la campagne télévisuelle de Reagan jouait-elle sur le symbole inquiétant de l'ours dans les bois ?
L'ours, qui symbolise la Russie, était un puissant point d'ancrage négatif renforçant l'image du besoin qu'avaient les États-Unis d'un dirigeant fort, comme Reagan se proposait de continuer à l'être.
Ne vous est-il pas arrivé de voir des ours et de penser qu'ils étaient mignons ?
Pourquoi celui-ci faisait-il peur ?
C'était l'effet de toute une mise en scène.
Lumière,
mots,
musique. Vous pouvez analyser n'importe quelle publicité ou campagne électorale efficace, vous vous apercevrez toujours qu'elle est exactement conçue selon la technique que nous avons élaborée dans ce livre. Elle utilise tout d'abord des stimuli auditifs et visuels qui vous mettent dans l'état que les publicitaires désirent créer en vous.
Puis elle associe cet état à un produit ou à une décision qu'ils veulent vous faire prendre. Ceci évidemment de façon répétée jusqu'à ce que votre système nerveux associe effectivement l'état au produit ou au comportement désiré. Lorsqu'elle est bien faite, elle propose des images et des sons qui affectent les trois principaux systèmes de représentation.
Visuel,
auditif
et kinesthésique.
Si la télévision est un aussi bon média, c'est parce qu'elle utilise mieux que tout autre ces trois systèmes.
Elle vous donne de belles images.
Elle les accompagne de paroles
ou de musiques accrocheuses
et fait passer de l'énergie dans son message. Pensez aux publicités les plus connues. Pensez à la campagne
« Tendez la main, touchez quelqu'un »
de la compagnie des téléphones. Elles agissent toutes sur les plans visuels, auditifs et kinesthésiques à la fois, ce qui leur permet de toucher tout le monde.
Il y a évidemment des publicités qui produisent de façon aussi efficace une image opposée, qui brise aussi violemment que possible un état considéré comme non désirable. Pensez aux campagnes anti-tabac.
Avez-vous déjà vu cette affiche représentant un fœtus qui fumait dans le ventre de sa mère?
Ou Brooke Shields, l'air totalement hébété avec des cigarettes qui lui sortaient des oreilles?
Ces images cassent les schémas, détruisent l'aura magnifique que quelqu'un d'autre a essayé de créer autour d'un produit malsain.
Vous pouvez, dans un tel monde, faire partie soit de ceux qui persuadent les autres, soit de ceux qui se laissent persuader. Vous pouvez diriger votre vie ou être dirigé. Ce n'est au fond que de persuasion que parle ce livre. Il vous a montré comment développer le pouvoir personnel qui vous permet de prendre les commandes de l'influence, que ce soit pour offrir à vos enfants un modèle à suivre ou pour exercer une force puissante dans votre travail. Ce sont ceux qui persuadent qui ont le pouvoir. Ceux qui n'ont pas de pouvoir agissent simplement d'après les images et les ordres qu'on envoie vers eux.
Le pouvoir, c'est aujourd'hui la capacité de communication et de persuasion. Si vous n'avez pas de jambes, mais de l'influence, vous persuaderez quelqu'un de vous porter.
Si vous n'avez pas d'argent, vous persuaderez quelqu'un de vous en prêter.
La persuasion peut être ce qu'il y a de plus utile pour créer le changement. Si vous savez persuader les autres et que vous êtes seul au monde, alors que vous ne le voulez pas, vous trouverez quelqu'un pour vous aimer. Si vous savez persuader les autres et que vous avez un bon produit à vendre, vous trouverez quelqu'un pour vous l'acheter.
Vous pouvez avoir une idée ou un produit susceptible de changer le monde. Si vous n'avez pas de pouvoir de persuasion, vous n'avez rien. Communiquer ce que l'on a à offrir, voilà autour de quoi tourne toute notre vie. Il n'y a rien de plus important à apprendre.
Je vais maintenant vous donner un exemple du pouvoir de cette technologie et de tout ce que vous pourrez faire une fois que vous maîtriserez les techniques de la programmation neurolinguistique. Lorsque j'ai créé mon premier séminaire de PNL, j'ai décidé de proposer à ceux qui le suivaient un exercice qui leur ferait vraiment utiliser ce qu'ils avaient appris. Je les ai donc tous réunis à 11h30 du soir et leur ai demandé de me donner leurs clés, leur argent, leur carte de crédit, leur portefeuille, tout sauf l'événement qu'ils portaient.
Je voulais démontrer qu'ils n'avaient pour réussir besoin de rien d'autre que de leur pouvoir personnel et de leur capacité de persuasion, qu'ils savaient désormais comprendre les besoins des autres et y répondre, et qu'il ne leur fallait ni argent, ni statut social particulier, ni véhicule, ni rien de ce que notre culture nous présente comme indispensable pour vivre comme ils le voulaient.
Nous étions à Carefree, en Arizona. Ils devaient tout d'abord se rendre à Phoenix, qui se trouve à environ une heure de voiture de Carefree. Je leur ai dit de bien prendre soin d'eux-mêmes, d'utiliser ce qu'ils avaient appris pour arriver jusqu'à la ville sains et saufs et s'installer dans un endroit agréable et de se servir de leur talent de persuasion chaque fois que cela leur semblerait utile, pour eux et pour les autres.
Ils parvinrent à des résultats étonnants. Plusieurs obtinrent dans les banques des prêts de 100 à 500 dollars, uniquement grâce à leur pouvoir personnel et leur crédibilité. Souvenez-vous qu'ils n'avaient pas leurs papiers et qu'ils se trouvaient dans une ville où ils n'avaient jamais mis les pieds. Une femme se rendit dans un grand magasin où on lui accorda une carte de crédit qu'elle utilisa sur le champ. 80% des 120 personnes qui partirent de Carefree trouvèrent du travail à Phoenix et 7 d'entre elles se virent offrir ce jour-là au moins 3 emplois. Il y avait une femme qui voulait travailler au zoo. On lui dit que, même pour les bénévoles, il y avait une liste d'attente de 6 mois. Mais elle noua avec les gens qu'elle rencontra un tel rapport de sympathie qu'on lui permit de venir travailler avec les animaux. Elle soigna un perroquet malade en stimulant son système nerveux grâce à la PNL. Le directeur du zoo fut si impressionné qu'elle finit par faire des mini-séminaires au cours desquels elle enseignait au personnel comment utiliser de façon positive ses techniques sur les animaux.
Un homme qui aimait les enfants et avait toujours rêvé de s'adresser un jour à une assemblée de jeunes se rendit dans une école et déclara
« Je viens faire la conférence. À quelle heure doit-on commencer ?»«
Quelle conférence ?» lui demanda-t-on.
« Vous savez bien, la conférence prévue pour aujourd'hui. Je viens de loin, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que nous démarrions dans l'heure qui vient. »
Personne ne savait vraiment qui il était, mais il se montra si sûr de lui et si crédible que les responsables de l'école décidèrent que cette conférence devait avoir lieu. Ils réunirent les enfants et il leur parla pendant 1h30 de ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer leur vie, ce qui passionna tout le monde, élèves et professeurs.
Une autre femme entra dans une librairie et se mit à signer des dédicaces sur un livre de Terry Cool Whitaker, évangéliste de la télévision. Elle ne ressemblait absolument pas à Terry Cool, dont il y avait une photo sur la couverture du livre. Mais elle imita si bien sa démarche, ses expressions et son rire, que le libraire, qui n'avait tout d'abord pas beaucoup apprécié qu'une étrangère se mette à écrire sur ses livres, joua le jeu et lui dit
« Excusez-moi, Madame Whitaker.
Je suis très honoré de votre visite. »
D'autres personnes lui demandèrent des autographes et achetèrent le livre pendant qu'elle était là. Ce jour-là, des individus pleins de ressources soignèrent de leur phobie.
Soignèrent de leur phobie et autres problèmes psychologiques de nombreux habitants de Phoenix. Cet exercice avait pour but de démontrer à ces gens qu'il leur suffisait, pour se débrouiller, d'utiliser toutes leurs ressources personnelles, qu'ils n'avaient aucun besoin de tout ce dont ils se servaient habituellement.
Moyens de transport, argent, réputation, contact, crédit, etc.
Et ils vécurent, pour la majorité d'entre eux, une des journées les plus agréables, les plus riches de leur vie. Ils se firent tous des amis et aidèrent des centaines de gens.
Nous avons parlé dans notre premier chapitre de ce que les gens pensent du pouvoir. Certains y voient quelque chose de choquant.
Avoir du pouvoir signifie pour eux contrôler illégitimement la vie des autres.
Laissez-moi vous dire que, dans le monde moderne, la persuasion n'est pas un choix, mais une réalité omniprésente. Il y a toujours quelqu'un qui persuade les autres. Les gens dépensent des millions et des millions de dollars pour faire passer leur message de la façon la plus adroite et la plus efficace possible. Si ce n'est pas vous qui persuadez, d'autres le feront.
Qui a le plus grand pouvoir de persuasion, vous ou le revendeur de drogue?
Voilà de quoi dépendra le comportement de vos enfants. Si vous voulez maîtriser votre vie, si vous voulez être pour ceux que vous aimez le modèle le plus abouti, le plus efficace, vous devez apprendre à développer votre influence. Il y a des tas de gens qui sont prêts à combler le vide que vous laissez en ne prenant pas vos responsabilités.
Vous savez déjà ce qu'une communication efficace peut signifier pour vous. Il nous faut maintenant nous placer à un niveau plus général. Nous vivons une des périodes les plus extraordinaires de l'histoire humaine, une période où se produisent en quelques jours des changements qui prenaient autrefois des dizaines d'années, une période où se font en quelques heures des voyages qui duraient autrefois des mois. Cette évolution a de nombreux aspects positifs. Nous vivons plus longtemps, plus confortablement, nous sommes plus stimulés et plus libres que nous ne l'avons jamais été.
Mais notre époque a aussi des aspects terrifiants. Pour la première fois de l'histoire, nous sommes maintenant capables de détruire la planète tout entière, que ce soit par d'horribles explosions ou en polluant et en empoisonnant lentement cette terre et ses habitants. C'est une chose dont nous n'aimons généralement pas parler, une chose dont nos esprits cherchent à s'écarter et non vers quoi ils veulent aller. Mais c'est aussi une réalité de la vie d'aujourd'hui. Heureusement, que vous l'appeliez Dieu, l'intelligence humaine, le pur hasard ou autrement, la force qui a provoqué ces problèmes affolants a créé en même temps les moyens de les résoudre. Car je crois en une source qui dépasse mon entendement présent. Ceux qui disent qu'il n'y a rien derrière l'intelligence, aucune source que l'on pourrait appeler Dieu, pourrait aussi bien dire que le dictionnaire est le résultat d'une explosion qui serait produite à l'intérieur d'une imprimerie, explosion à la suite de laquelle tous les mots se seraient mis de même en place.
Le jour où j'ai commencé à réfléchir aux problèmes de ce monde, j'ai remarqué tout d'un coup qu'il y avait entre eux tous une relation commune. Tous les problèmes humains sont des problèmes de comportement. Si, comme je l'espère, vous utilisez en me lisant votre modèle de précision, vous demanderez
« Tous ?»
Eh bien, disons les choses autrement. Même si la source du problème n'est pas le comportement humain, il existe généralement un comportement qui résout le problème. Le crime, par exemple, n'est pas le problème. C'est le comportement des gens qui crée ce que nous appelons le crime.
Il nous arrive souvent de donner à des ensembles d'actions des noms, comme s'ils étaient des objets, alors qu'il s'agit en fait de processus. Tant que nous nous représentons les problèmes humains comme des objets, nous en faisons quelque chose d'énorme, qui échappe à notre contrôle, et nous nous rendons impuissants devant eux. Ni l'énergie nucléaire, ni les déchets nucléaires ne sont le problème. C'est la façon dont les humains utilisent l'atome qui peut poser problème. Si nous décidons, en tant que nation, que ces outils ne constituent pas l'approche la plus saine et la plus efficace en matière d'accroissement de la production et de la consommation d'énergie, nous pouvons changer de comportement. La guerre nucléaire n'est pas un problème en elle-même. C'est la façon dont les êtres humains se conduisent qui provoque la guerre ou l'empêche d'éclater. En Afrique, le problème n'est pas la famine elle-même. Ce n'est pas en dévastant chacun à son tour la terre de son voisin que l'on développe sa production alimentaire. Si les denrées qu'on envoie du monde entier dans ces pays pourrissent dans les ports parce que certains êtres humains ne veulent pas coopérer, c'est un problème de comportement. Regardez ce qu'ont fait les Israéliens d'un morceau de désert.
Dès l'instant où nous acceptons que le comportement humain soit la source des problèmes humains ou que de nouveaux comportements humains résolvent la plupart des autres problèmes, on se passionne pour cette idée car on comprend que ces comportements résultent des états dans lesquels se trouvent les êtres humains et sont les modèles selon lesquels ils réagissent à ces états.
Nous savons aussi que les états dont naissent les comportements résultent de nos représentations internes. Nous savons par exemple que le fait de fumer est associé à un état particulier. On ne fume pas à chaque instant de la journée, mais uniquement quand on est dans cet état. Ceux qui mangent trop ne le font pas toute la journée, mais seulement quand ils sont dans l'état qu'ils ont associé au fait de se goinfrer. Si vous réussissez à changer ces associations ou la réaction en cause, vous pouvez transformer le comportement des gens.
Nous vivons maintenant un âge où la technologie permettant de communiquer des messages au monde entier ou presque est déjà installée et utilisée. Cette technologie est celle des médias, radio, télévision, cinéma, imprimerie. Les films que nous voyons un jour à New York et Los Angeles passent le lendemain à Paris et à Londres, le surlendemain à Beyrouth et à Managua, et partout dans le monde quelques jours plus tard. Si ces films ou les livres ou les émissions de télévision ou toute autre forme de média changent les représentations internes et les états des gens dans un sens positif, ils peuvent aussi changer le monde en ce sens. Nous avons vu combien les médias sont efficaces quand il s'agit de vendre des produits ou de répandre la culture. Nous commençons maintenant à découvrir combien ils peuvent être efficaces pour ceux qui veulent changer le monde. Pensez au concert Livehead, à cette extraordinaire démonstration du pouvoir positif de la technologie de communication qu'ils ont été.
Nous avons donc maintenant à notre disposition les moyens de changer les représentations internes d'innombrables êtres humains, et donc de leurs états, et donc leurs comportements. En utilisant efficacement notre savoir sur ce qui déclenche les comportements humains et en faisant appel à la technologie actuelle pour communiquer ces nouvelles représentations aux masses, nous pouvons changer l'avenir de notre monde.
Le documentaire américain Scared Straight, que l'on a vu il y a quelques années sur le petit écran français, nous donne un magnifique exemple de la façon dont nous pouvons changer les représentations internes et par là les comportements des gens en utilisant les ressources des médias. Ce film montre des jeunes délinquants que l'on emmène dans un pénitencier ou des prisonniers pour leur éviter le pire, mettent le paquet pour changer leurs représentations internes du crime et de l'enfermement. On avait auparavant interviewé ces jeunes, ils avaient réagi pour la plupart en vrai dur, disant que la prison n'était pas si terrible que ça. Mais leurs représentations internes et leurs états changèrent radicalement quand un homme qui avait de nombreux meurtres à son actif leur expliqua ce qu'était véritablement la vie en prison, en relatant tous les détails, avec une intensité qui aurait fait changer la physiologie de n'importe qui. Il faut voir Scared Straight.
Ceux qui ont assuré le suivi de cette émission ont trouvé qu'elle avait eu une influence extraordinairement efficace sur le comportement de ces adolescents. Et la télévision a permis d'étendre cette expérience à un très grand nombre de jeunes et d'adultes, de transformer simultanément leurs pensées et leurs comportements.
Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette 21e émission. 21e et avant-dernière émission, nous aurons grand plaisir à vous revoir dès la semaine prochaine pour la fin de ce merveilleux ouvrage. Au revoir, bonne semaine.
Au revoir.